Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on quitte un petit peu les marchés dans leur ensemble qu'on vient d'évoquer avec XTB en accueillant Gilles Langaigne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, associé, fondateur d'Infraniti. Je le disais en préambule, on va parler d'infrastructure, on va regarder un petit peu cette classe d'actifs. Mais d'abord, en quelques mots, présentez-nous Infraniti.
Oui, alors Infraniti, c'est une société de gestion affiliée au groupe Generali qui est spécialisée dans l'investissement en infrastructures durables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On investit dans la transition énergétique avec les énergies renouvelables, dans les transports avec la mobilité décarbonée, notamment les transports ferroviaires. On investit dans la transition digitale à travers les infrastructures de réseaux télécoms, les tours, la fibre, les data centers. Alors, c'est une société qui investit sur les marchés privés, donc en equity et en dette, private equity, private debt. Et puis aujourd'hui, voilà, on fait partie des grands acteurs européens. On a 75 professionnels répartis entre Londres, Paris et New York. Et on gère 11 milliards pour le compte du groupe Generali et d'autres investisseurs institutionnels. Et puis, peut-être fait intéressant, on a été un des pionniers à ouvrir la classe d'actifs à une clientèle d'investisseurs particuliers. Et donc, on gère aussi des stratégies en partenariat avec le groupe Generali, qui se retrouve dans leur contrat d'assurance vie, par exemple.
Alors, il va falloir nous dire maintenant pourquoi, finalement, cet investissement en infrastructure, on a compris dans la durabilité, etc. Pourquoi on en parle autant? Pourquoi est-ce que maintenant, on a l'impression que c'est presque un élément central dans une stratégie patrimoniale des investisseurs?
Ouais, je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, c'est une société, c'est une classe d'actifs pardon qui répond à des enjeux de société qui sont forts. On l'a évoqué, la transition énergétique, la transformation numérique de l'économie. Et puis c'est une classe d'actifs qui a des atouts financiers très forts et donc qui devient un bloc essentiel de la construction d'un portefeuille à la fois des investisseurs institutionnels, mais aussi pour des investisseurs particuliers. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte des rendements stable, régulier, de long terme. Ça apporte également des rendements qui sont décorrélés d'autres marchés, en particulier les marchés actions. Et puis, comme je le disais, ça permet de donner du sens à son épargne, de financer l'économie réelle. Donc, il y a une certaine forme de proximité avec ces infrastructures.
Il y a des tendances lourdes, entre guillemets, qui domine un petit peu cet investissement, parce que vous nous avez quand même cité énormément, on va dire, de typologies d'infrastructures.
Oui, je crois que, vous l'avez compris, aujourd'hui, les deux grands segments qui tirent le marché, c'est la transition énergétique et en même temps, effectivement, les infrastructures digitales. Alors, je vais revenir sur ces deux segments parce que il y a beaucoup de tendances à l'intérieur de ces segments. Dans la transition énergétique, les énergies renouvelables avec le solaire, l'éolien, ça reste des investissements qui sont très importants et qu'on va continuer de faire et les opportunités sont là. Il faut tout de même faire assez attention à la volatilité des prix de l'électricité qu'on a vu ces dernières années. Et donc, c'est très important de bien structurer ces opérations et notamment de contrôler ces risques de volatilité sur le prix de l'électricité, par exemple avec des contrats long terme comme des corporate PPA, donc des industriels qui achètent l'électricité à long terme à prix fixe. On a d'autres secteurs qui émergent, notamment le biogaz, qui est aussi un secteur très intéressant, et puis le stockage d'électricité. Et aujourd'hui, c'est probablement un secteur qui accélère très fort parce que l'arrivée de renouvelables sur les réseaux électriques, ça crée de l'intermittence, comme vous le savez. Et donc, pour lisser...
C'est presque le nerf de la guerre.
Voilà, pour lisser la production et réguler les prix également, on a besoin de plus en plus d'infrastructures de stockage. Et ces projets qui étaient petits passent aujourd'hui à l'échelle et donc créent des opportunités d'investissement. Alors ça, c'est la transition énergétique. Il y a aussi la mobilité décarbonée. Et nous, on croit très fortement au secteur des transports ferroviaires. Et donc, c'est un secteur dans lequel on investit massivement. L'autre secteur qui tire le marché, c'est évidemment la transition numérique. Alors là aussi, il y a différents secteurs. Alors nous, on investit dans les infrastructures, c'est-à-dire les tours télécoms. Alors, c'est un secteur qui offrent des revenus très stables parce qu'essentiellement ce sont des opérateurs télécom qui souhaitent trouver des partenaires financiers pour financer l'expansion de leur réseau autour télécom et en échange de quoi ils s'engagent à utiliser le réseau avec des contrats à long terme. Donc ça donne une grande stabilité, une grande visibilité sur les revenus. C'est un secteur, il y a eu beaucoup d'opérations qui a peut-être un petit peu ralenti ces dernières années. Il y a le secteur de la fibre. Alors, apporter le très haut débit au territoire, ça c'est un secteur très important. Faut être sélectif sur le secteur de la fibre. On a beaucoup investi en soutien du plan très haut débit français, par exemple, parce que la France est un marché très organisé. Il y a des monopoles de fait qui sont créés à travers des concessions. Et donc, on comprend bien la résilience du business model. Il y a d'autres marchés, par exemple, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, qui sont un petit peu plus compliqués, sur lesquels on a été plus prudent. Et puis, il y a un dernier secteur dont il faut absolument parler, c'est le secteur des data centers, parce qu'aujourd'hui, c'est le secteur qui croît le plus vite. Évidemment,
on a parfois décrié pour leur consommation électrique.
Oui, et tout à fait, il faut en parler. Mais pour évidemment donner la tendance de fond, c'est un secteur qui avait une croissance déjà très forte avant la vague intelligence artificielle. Aujourd'hui, cette vague arrive et on voit l'intelligence artificielle. Oui, il y a besoin de puces, on parlait de Nvidia, mais il y a aussi besoin de data centers et de connectivité. Donc, on voit les besoins croissants. Mais vous avez raison, ce secteur-là, il doit avoir une croissance maîtrisée en termes d'empreinte environnementale. Et donc, pour nous, c'est un enjeu très important. Il faut s'assurer qu'il s'approvisionne en électricité verte et qu'il soit efficace. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le secteur télécom et des data centers en particulier rejoint celui de l'énergie parce que c'est une boucle. Il y a besoin de plus en plus d'énergie.
Et il y a des risques justement particuliers liés à ces infrastructures vertes entre guillemets où on est là dans le risque action et on doit le gérer comme tel.
Il y a des risques en infrastructure. On a des risques qui peuvent être d'ordre politique ou réglementaire. On le voit bien. Ce sont des secteurs qui ont le soutien des pouvoirs publics et qui parfois ont bénéficié de subventions. Donc, il faut faire attention aux business models qui sont subventionnés et bien comprendre ces enjeux-là. Il faut savoir diversifier son portefeuille, ne pas être trop concentré sur un type de technologie, un marché, un type de subvention. Je pense que c'est important. Et puis l'autre risque sur ce marché, c'est le risque de volatilité dont je parlais. Et donc là, l'infrastructure, finalement, on a l'opportunité de vraiment structurer nos opérations, comme je le disais. Donc passer des risques à des contreparties qui sont peut-être plus à même de les gérer. Ou rentrer dans des contrats long terme, comme je le disais, notamment des contrats d'achat à long terme d'électricité.
Mais lorsqu'on investit avec ces idées-là, maintenant on le sait, on a du rendement, enfin voilà, vous l'avez rappelé. Mais est-ce qu'on a un vrai impact, on va dire, en fait, en clair, est-ce que cet investissement en infrastructure, il contribue vraiment à la transition énergétique, au développement durable?
Complètement. Moi, je crois qu'on fait partie, en tout cas, des acteurs qui pensent que la finance durable, ça fait partie des leviers pour faire cette transformation. Je crois que l'impact, la notion d'impact, elle est intéressante parce qu'elle a évolué. Je crois qu'aujourd'hui, on reconnaît que l'impact, pour qu'elle soit significative, il faut la mettre à l'échelle. C'est pas quelque chose de niche, en fait, de faire de l'impact. Et donc, il y a besoin de moyens très importants pour mettre à l'échelle des technologies existantes. Alors, vous l'avez compris, moi, je ne suis pas un investisseur en clean tech, donc on ne prend pas des risques technologiques, etc. Mais ces technologies qui sont éprouvées, il faut les mettre à l'échelle. Il y a besoin de capitaux très importants. Et la part du secteur privé est de plus en plus importante parce que les États n'ont plus forcément les moyens, avec leur niveau d'endettement, de jouer le rôle qu'ils jouaient auparavant. Donc ça, c'est fondamental. Et donc, oui, je crois qu'on a la possibilité d'avoir des impacts, surtout quand on est un investisseur qui apporte une grande partie de la structure de capital dans le long terme.
Justement, on est à la frontière du greenwashing quand on discute de ces propos-là. On a vu que les exigences des gouvernements, des règles, de la réglementation augmentaient aussi pas mal. Comment est-ce que vous le conciliez? Parce que le rendement, il peut parfois être un peu, on va dire, rogné quand le filtre devient plus compliqué. Enfin, on a vu par exemple le label ISR en France qui a de plus en plus d'exclusions au départ. Oui. Ça devient, on se dit l'univers de recherche diminue, j'ai peut-être des boîtes qui vont sortir alors qu'elles étaient un facteur de croissance. Enfin, comment est-ce qu'on appréhende un peu tout ça?
Alors, je pense que dans la classe d'actifs infrastructure, on a quand même la chance d'avoir la possibilité de concilier impact ou en tout cas investissement durable avec rendement, clairement. Parce qu'on peut choisir des actifs qui ont un rôle très clair à jouer dans la transition énergétique, si on reprend ce secteur. C'est important d'avoir peut-être une vue un peu holistique de l'investissement durable, c'est-à-dire qu'il y a la nature même de l'actif. Oui, j'investis dans un parc solaire et donc je vais produire de l'énergie durable, mais par exemple, il faut aussi traiter les sujets liés à la chaîne d'approvisionnement. Et donc, par exemple, s'intéresser aux panneaux solaires, qui les fabrique, c'est en Chine, est-ce qu'il y a des sujets, par exemple, de conditions de travail, etc. Donc, on a besoin d'avoir, et on mène des due diligence approfondies hein, sur ces sujets-là, mais on est assez clairement capable d'aller dégager des rendements aujourd'hui en ayant une contribution positive à ces enjeux de société.
Pour terminer, comment vous mesurez, ou selon vous, quelles sont un petit peu les attentes d'un investisseur aujourd'hui, qu'il soit institutionnel ou privé, puisque vous, en plus, vous avez les deux jambes chez Infranity, et donc c'est intéressant d'avoir votre regard. Quelles sont leurs principales attentes quand ils vous disent, bah voilà, nous, on envisage d'investir dans ces solutions d'infrastructure durable. Ils attendent quoi?
Alors, je pense qu'ils attendent...
À part le rendement, parce que ça, tout le monde l'attend, on est d'accord.
Je pense qu'ils attendent... pas forcément juste le rendement, mais ils attendent que la classe d'actifs finalement délivre ses promesses. C'est-à-dire qu'on l'a vu performer sur différents cycles. C'est une classe d'actifs qui a été très résiliente pendant les différentes crises, que ce soit la pandémie, même la crise de l'énergie avec les contrats structurés dont on parlait. Cette classe d'actifs a très bien résisté. Elle protège contre l'inflation. On connaît le contexte et donc c'est très important. Donc ces investisseurs-là, quelque part, ils l'utilisent comme un building block de leur construction de portefeuille. Il faut que ça délivre des performances à long terme avec une stabilité très forte dans les différents cycles économiques. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que clairement, ils souhaitent investir en infrastructure pour contribuer à leurs objectifs de développement durable, à leurs objectifs de transition. Vous savez que beaucoup d'investisseurs sont engagés dans des trajectoires climat, net zéro, etc. Donc, c'est un des premiers outils.
Ouais, ils ont besoin d'être sûrs de ce qu'ils font.
Ouais. Pour décarboner.
Pour exactement. Eux aussi rendre compte.
Absolument. Et puis, c'est un outil de diversification. Très important pour eux de pouvoir diversifier leur portefeuille avec cette classe d'actifs et donc la décorrélation avec ces marchés. Et donc, c'est pour ça que nous, on aime bien offrir des stratégies assez pures, c'est-à-dire vraiment marché privé, soit en dette, soit en equity, et pas forcément les mixer avec d'autres classes d'actifs plus liquides.
Merci beaucoup, Gilles. Gilles Langagne, donc, pour Infranity dans Cœur de Patrimoine, au sujet de toutes ces infrastructures liées au développement durable. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. On se retrouve la semaine prochaine, à mercredi.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.